Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. He left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery.
Yeah!
Go ahead. Goal line. Touchdown.
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 Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 291 du podcast Jeune Actu Alain Mattei. Très heureux de vous retrouver à mes côtés, comme toutes ces dernières semaines, il y a Grégory Richard. Bonjour Grégory.
Salut Alain, bonjour à tous.
Grégory, cette semaine, c'est donc la suite de notre podcast Draft. Ça va cogner puisqu'on va parler des hommes de la ligne défensive ainsi que des linebackers. On peut dire un petit mot quand même sur ces deux secteurs. C'est quand même le gros morceau de la Draft 2019 a priori.
Oui, alors surtout la ligne défensive, hein, parce que linebacker, on y reviendra tout à l'heure, c'est un petit peu l'inverse, mais en tout cas, oui, c'est la grosse composante de cette draft 2019, ce sera clairement les pass rushers et les linemen défensifs en règle générale. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à se mettre sous la dent pour les équipes intéressées.
Eh ben, tu l'as dit, c'est le temps faible, mais on va quand même commencer par les linebackers. Alors, c'est toi qui as fait le programme, tu
m'as dit. Ah bah, on y va crescendo, attends.
Alors, on va monter en puissance, on commence par les linebackers juste après ça.
Hi, it's Brandon Clark from the Dallas Cowboys, you listen to Touchdown Podcast.
Linebacker, c'est donc le programme de notre début d'émission. Cette semaine, Grégory, vous avez l'habitude peut-être, vous les auditeurs, d'écouter ces émissions draft. On va faire premier tiers, deuxième tiers, troisième tiers pour cette première catégorie de joueurs. Après, quand on parlera d'Ironman, on fera notre autre configuration qui est star, bust, bonnes affaires et celui que j'oublie toujours, les styles. Bonnes affaires, c'est style.
Les bust et les bonnes affaires, les styles.
Mais il y en a un quatrième, non ?
Valeurs sûres,
c'est les valeurs sûres que je joue. On commence en tout cas avec les linebackers et le premier tiers. Dans ce premier tiers, on retrouve tout d'abord Devin White, linebacker de LSU, 1m85, 109 kg, 13 matchs la saison dernière, 123 plaquages, 12 plaquages pour perte, 3 sacs, 6 passes déviées, 3 fumbles forcés. C'est le linebacker le plus complet de l'année. On en avait parlé normalement dans l'émission top 15 de la draft.
Tout à fait.
Donc on va vous référer pour plus de détails à cette émission. On va quand même dire un mot pour ceux qui le découvrent. Linebacker, donc, qui a l'air d'être ultra complet, est-ce qu'il a des défauts ?
On dira qu'il se fait un petit peu piéger par ses instincts quand même. Pour caricaturer un petit peu la chose, c'est un peu celui qui dira « Ah, je t'ai vu », mais qui en fait va se faire un petit peu berner par son vis-à-vis. Donc il a tendance à être peut-être un peu trop incisif, à pas forcément bien assurer ses plaquages. Ce qui est très paradoxal parce qu'encore une fois, voilà, j'en parlais la dernière fois, mais c'est sûr qu'en termes de poursuite, de vitesse, de couverture, même de blitz, c'est un joueur qui a parfaitement la vélocité, la rapidité, l'explosivité pour être performant en NFL. Il va juste falloir qu'il se discipline un peu plus, mais à titre personnel, c'est pas ce qui me fait non plus le plus peur pour lui à l'échelon supérieur.
Je crois que je t'avais déjà demandé ça la dernière fois, mais est-ce que tu aurais une comparaison NFL ? Non, il est plutôt. Ouais, il est dans les standards, hein, 1m85. Enfin, il est vraiment
ouais, il est
prototype,
alors,
quoi,
alors,
physiquement.
Je vais le dire en amont parce que c'est vrai qu'on sait qu'il y a quand même cette, cette petite habitude ces dernières années de sortir des prospects hyper athlétiques en NFL, peu importe les postes, ça se retrouve de plus en plus, enfin notamment sur les linemen défensifs dont on parlera tout à l'heure, des joueurs qui sont souvent très hybrides. Les linebackers échappent pas à cette donnée-là et ça se ressent aussi dans le sens où on a des joueurs qui sont hyper athlétiques mais qui n'ont pas forcément énormément de coffre, je dirais, par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé. On va pas avoir des gros middle linebackers qui vont être vraiment des run stoppers, des vumpers comme on les appelle, c'est des joueurs qui vont écraser le entre guillemets le running back adverse de par leur impact, mais plus des joueurs qui vont être plus dans un profil de linebacker côté faible à justement pouvoir tout faire, couvrir une large zone du terrain, et Devin White en fait partie parce qu'encore une fois il sait tout faire. Après, le profil, la dernière fois, je t'avais parlé de Dion Jones parce que c'est l'école à LSU, c'est en effet cette hyper-explosivité, cette polyvalence à outrance. Mais bon, encore une fois, c'est un joueur qui a vraiment de multiples facettes et qui peut ressembler à beaucoup d'autres joueurs de passion.
Tu l'avais mis 3e du top 15,
oui.
De mémoire. Tu le vois partir dans le top 5, du coup, au moment de la draft ?
Alors, ça, c'est l'autre problème, c'est que le poste de linebacker, ça reste également un parent pauvre un peu défensif de la ligue. Ce qu'on regarde avant tout, c'est les postes qui vont être performants contre la passe. Et c'est sûr que un linebacker qui, encore une fois, va être qui peut être très polyvalent, comme je l'ai dit, mais qui reste avant tout à considérer sur le jeu à la course, c'est peut-être ça qui va le dévaluer un peu. Je pense quand même qu'il sera top 10, maximum 11e. On sait que la grosse cote, c'est du côté de Cincinnati, qui a un gros besoin de linebacker. Je le vois pas honnêtement passer ce 11e spot lors de la draft.
Les Giants, les Buccaneers, les Raiders en 4-5-6, enfin dans l'autre ordre, 6-5-4. Ah,
Buccaneers, je sais pas, parce qu'ils ont déjà signé Dion Buchanan, si je me rappelle bien. Il passe sur une 34, donc je sais pas si ce serait très judicieux. Après, je me posais la question pour Jacksonville, par exemple.
En
7, pourquoi pas, mais est-ce que c'est vraiment un profil qui pourrait les intéresser? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de... peut-être de renforcer d'autres postes, mais non, en tout cas, c'est un joueur qui, de toute façon, ça je l'ai dit sur sa fiche, je pense, tardera pas à être un pro bowler, en tout cas s'il n'est pas ennuyé par les problèmes de blessure. Et je le dis, c'est vraiment des problèmes purement disciplinaires et instinctifs qu'il va falloir rectifier, et il le fera assez vite, je pense.
Derrière lui, on retrouve Devin Bush, Michigan, 1m83, 95 kg, 12 matchs, 79 plaquages, 9 plaquages pour perdre, 5 sacs. Alors, il n'est pas dans la fourchette haute de la taille, il est 1m83, mais il est rapide, complet, physique. Il ressemble à un joueur qui est plutôt prêt à contribuer directement.
Oui, alors t'en as un petit peu parlé, son gros déficit en l'occurrence, c'est sa taille. Là, je vais me répéter souvent, mais voilà, c'est avec des linebackers qui sont amenés à défendre contre la passe. C'est vrai que, on va dire que sur certains match-up, il sera pas forcément avantagé. Après, il a vraiment ce leadership, cette détermination, je sais pas comment on pourrait dire ça, parce que cette grinta, quoi. C'est vraiment un joueur qui a ce caractère sur le terrain, qui a été un vrai moteur défensif du côté de Michigan et qui, à l'instar de Devin White, sait faire énormément de choses et arrive à compenser certaines de ses lacunes par son activité assez bluffante. Je sais pas si tu l'as dit du coup, mais c'est un ancien joueur un fils d'ancien joueur NFL. Je vais y arriver en mettant les mots dans le bon sens. Puisque Devin Bush, senior. Bonjour. D'accord. L'originalité.
J'ai eu peur, je croyais que tu allais me dire Reggie Bush. Je me disais, putain, il l'a eu jamais.
A évolué en NFL et a même d'ailleurs été champion avec les Rams, je crois, à la fin des années 90. Donc, il a un certain background. Il a en effet ce leadership dans une université qui est quand même à ses côtés, en l'occurrence Michigan, avec un ancien coach NFL, donc avec un des coordinateurs défensifs les plus réputés de college football. Donc, voilà, il y a quand même, là, pour le coup, la discipline, elle est là. On l'a vu un petit peu péter les plombs contre Michigan State au cours de la saison, mais ça arrive pas non plus toutes les semaines. C'est un joueur qu'il va falloir canaliser, mais je pense pas que ce sera un Vontaze Burfict qui va te coûter des matchs chaque semaine non plus. Donc prospect très intéressant. Je réponds à ta question habituelle, mais au vu de sa cote qui grimpe semaine après semaine, je serais étonné qu'il soit pas un premier tour quand même cette saison.
Eh ben, c'était exactement ma question, je voulais savoir s'il allait sortir au premier tour. Le troisième homme du premier tiers, c'est Mack Wilson, Alabama, 1m88, 108 kg, 15 matchs, 71 plaquages, 5 plaquages pour perte et un sac. Un linebacker de Bama, en général, ça sent plutôt bon. Son bonus à lui, c'est qu'il serait très bon en couverture.
Ouais, alors il me rappelle un peu, alors c'est la nouvelle tradition un petit peu du côté de Bama ces dernières années. Il y a pas mal de similitudes, mine de rien, avec Rashaan Evans qu'on avait vu drafté la saison dernière. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est intéressant contre le jeu au sol, mais qui là encore se démarque un petit peu plus par ses qualités athlétiques et en effet par sa faculté à bien couvrir. Après, c'est vrai que sur la saison 2018, je dirais un petit peu paradoxalement, d'ailleurs par rapport à ce qu'il avait pu montrer la saison d'avant. Il y a eu quand même une pointe d'irrégularité. On ne savait pas jusqu'au bout s'il allait se présenter parce que il avait aussi cette ambition d'être le meilleur linebacker universitaire. Distinction qui a été remise à Devin White la saison dernière. Donc voilà, il a beaucoup hésité. Finalement, il s'est lancé dans le grand bain. Bonne ou mauvaise chose, on verra. À l'heure actuelle, il a plus l'étiquette d'un deuxième que d'un premier tour. Donc il y a encore des fondamentaux, je trouve, ou en tout cas, peut-être justement cette activité qu'ont démontré Devin White et Devin Bush, que lui pour l'instant a du mal à mettre en avant, ce qui est un peu paradoxal quand on sait que la défense de Bama est souvent habituellement hyper incisive. Donc je pense qu'il va falloir il va falloir améliorer, on va dire, sa manière de diagnostiquer le jeu, certaines de ses lectures, et encore une fois, peut-être lui trouver le meilleur rôle qui, je pense, malgré tout, restera sur un poste de linebacker côté faible. Ou en tout cas, comme à Bama, d'inside linebacker tout simplement sur une défense 34.
Quel niveau du coup? Deuxième?
Au mieux, fin premier tour. Au pire, je pense quand même milieu deuxième, parce qu'il est vraiment en embuscade, on dira, sur ce premier chapeau.
Le deuxième niveau, c'est Jermaine Pratt tout d'abord, NC State, 1,88, 109 kilos, 11 matchs, 104 plaquages, 10 plaquages et demi pour perte et 6 sacs. Il est arrivé comme safety à NC State, donc il a des qualités de couverture. Ce serait un bon plaqueur, mais il ne serait pas au top sur la mobilité et la lecture du jeu.
Oui, alors c'est vrai qu'après, encore une fois, on a quand même beaucoup de mal à juger ce qu'il y a fourni Jermaine Pratt dans le sens où en effet il a été vraiment projeté sur le devant de la scène du côté du Wolfpack en 2018. Il était remplaçant pendant très longtemps parce que il y a des linebackers qui sont restés un petit moment sur le campus de North Carolina State. Maintenant, bon, la mobilité, la lecture, honnêtement, c'est pas ce qui m'a choqué. On va dire que c'est un joueur qui est très complet, qui sait faire énormément de choses, qui, là, pour le coup, à l'inverse des linebackers dont on a parlé précédemment, lui, pour le coup, je le vois plus comme un linebacker côté fort, donc un linebacker qui, en termes de match-up, peut être vraiment au duel, par exemple, avec des tight ends. Après, ça peut être un bon joueur également sur l'équipe spéciale, ce qui ne retire rien. Il aura sans doute besoin d'un petit temps d'adaptation parce qu'en effet, il a peut-être pas encore cette. Il n'a pas eu sans doute le temps d'acquérir toute cette maturité, on dira, dans son jeu. Mais non, ça reste un prospect très très intrigant sur le papier, qui sait faire beaucoup de choses. Peut-être pas aussi athlétique que les autres, mais en tout cas, un deuxième, voire maximum un troisième tour, je pense.
Ça reste pas mal. Vauchern Joseph de Florida, 1,85 m, 103 kg, 93 plaquages en 13 matchs, 9 plaquages pour perte et 4 sacs. Pas de super instinct, pas de super instinct. Alors je rappelle encore une fois, hein, moi je parcours les fiches TDA et le net et je dis ce que j'ai trouvé à Greg, comme monsieur tout le monde qui a recherché, et je lui soumets. Donc je disais, pas de super instinct, du mal à se défaire des blocs, du mal à suivre les routes, et pourtant tu le mets dans ton deuxième tiers. Pourquoi
Bah,
donc?
c'est un peu lié au fait que cette classe de linebacker reste relativement. Alors quelconque, c'est un peu dur, mais c'est sûr que sorti des trois premiers linebackers qu'on a évoqués tout à l'heure, en
Il y a un
l'occurrence
vrai
les deux
gap, quoi.
Devin et les Mac Wilson, c'est sûr que derrière on a un petit peu de mal à savoir. Ça peut aller un petit peu partout. Je parlais de Jermaine Pratt. Faut pas non plus être choqué s'il part quatrième ou cinquième tour. Et là, en l'occurrence, Vauchern Joseph, ça a été un cas très particulier du côté de Florida. Bonne défense, Florida, l'année dernière. Et Vauchern Joseph, je parlais d'irrégularité tout à l'heure. Il a été vraiment à ce niveau-là, au paroxysme de ce qu'on peut voir en termes d'inconstance. C'est-à-dire qu'il y a des matchs où il a été énorme. Je pense au match d'LSU, notamment, où il blitz 7 partout. Il était capable de vraiment apporter constamment la menace sur troisième tentative. Et puis, il y a d'autres matchs où il disparaît un peu, où en effet, de par cette difficulté un petit peu de lecture, contre des lignes offensives qui sont peut-être un petit peu plus créatives, capables de bloquer en zone, de brouiller un petit peu plus les pistes, justement, pour des linebackers adeptes de la poursuite. Là, ça commence à se compliquer un peu plus. Donc, c'est un joueur Je dirais pas que c'est un joueur où c'est du tout ou rien, où ça va être le sac, le plaquage pour perte, ou à défaut un gros gain. Mais en tout cas, voilà, par moment, il ressemble un peu à un gambler, on va dire, un joueur qui va dire tiens, je vais tenter ça. Ah non mince, c'était là-bas. Et c'est un petit peu son problème. Après, encore une fois, il y a une belle marge de progression. Comme les linebackers de Florida ces dernières années, je pensais à un Jarrad Davis par exemple. C'est un joueur qui est hyper athlétique et qui avec une science du jeu un peu plus développée, va être quand même un prospect assez intéressant. J'irais quand même sur peut-être troisième, quatrième tour à l'heure actuelle.
Et donc là, on a fait premier tiers, deuxième tiers, troisième tiers, mais pour les linebackers, si je comprends bien, ça aurait été difficile de faire valeur sûre, bust, etc.
C'est un peu ça. C'est un peu pour ça qu'on commence par les linebackers, je te le cache pas.
Non, mais c'est tant mieux, justement. Vaut mieux ça que de se forcer à les mettre dans des cases où on n'a aucune idée. Donc, a priori, Vaushon Joseph, incertain, en tout cas un bon pari. La question que j'avais, moi, c'était, il a été suspendu pour un match, pour manquement, je cite, à l'étiquette Gators. Ça veut dire quoi ? Quelle est l'étiquette chez les alligators ?
Tu sais, ça fait partie de ces fameuses violations internes de l'équipe où ça reste relativement flou. On peut y mettre n'importe quoi. Ça peut être un retard à l'entraînement, comme ça peut être des mauvais résultats académiques.
Ça veut dire que dans 5 ans, on va apprendre que c'était lui le seigneur de la cocaïne.
Ouais, je sais pas. Puis c'est vrai que ça rassure pas trop, correspond pas à l'étiquette Gators. Ça veut peut-être
oui,
dire.
Parce qu'elle est large, non, en général.
Il a pas épaulé Aaron Hernandez.
C'est ce que je veux dire. C'était l'ancienne fac d'Aaron Hernandez. Donc l'étiquette Gators, elle est.
Voilà, il a des migraines comme Percy Harvin. Enfin bon, c'est un peu compliqué. On rappelle qu'Antonio Callaway également sort de Florida, donc il y a quand même eu quelques petits spécimens au cours de ces dernières années.
Ah oui, c'est vrai, Callaway aussi.
Je sais pas si vraiment un match de suspension. J'ai pas dans l'idée que ça ait fait autant jaser que ça. Après, c'est sûr que sans doute les observateurs l'auront noté. Mais je suis pas sûr que c'est ça qui va forcément rendre la chose rédhibitoire en vue de sa draft.
Disons qu'on lui a sûrement posé la question à un moment dans le processus pré-draft au niveau des équipes intéressées. Et n'oublie pas que Florida s'est racheté pour l'éternité puisqu'ils ont été aussi la fac de Tim Tebow donc dans les faits.
Ouais, on va dire ça. Ouais.
C'est quand même absurde.
Ils nous ont quand même offert un super quarterback au premier tour de la draft.
Exactement. Tevon Coney de Notre-Dame, 1m85, 109 kg. Oui, ils ont tous l'air de faire la même taille et le même poids, c'est pas de ma faute. 13 matchs, 123 plaquages, 9 plaquages et demi pour perte, 4 sacs et une interception. Alors, j'ai trouvé ça, je cite ma source, c'est un site qui s'appelle The Draft Network et qui met « Il est super slow et il est super baraqué mais approche les bloqueurs comme s'il était en cristal ». Donc, pourquoi il est dans le deuxième chapeau ?
Parce que cette case de linebacker, elle est pas
J'ai adoré le super slow et approche les adversaires comme s'il était en cristal. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui ?
Non, alors c'est sûr que c'est là pour le coup, on est un peu plus en profil du plaqueur pur et dur. C'est sûr que là, son registre, ça va pas être d'être hyper polyvalent et de faire énormément de choses. J'aurais du mal à le voir vraiment comme un titulaire indiscutable à l'échelon supérieur. Après, c'est un joueur qui a quand même démontré du côté de Notre-Dame une certaine solidité mentale. Il apporte en effet quand même une certaine dose de physique. Ça peut être important défensivement, mais également, j'y reviens sur les équipes spéciales, pardon. Donc, il y a quand même, on va dire, un côté besogneux, un côté justement. Peur de rien, hein, même si il s'approche des joueurs aussi en cristal. Mais bon, voilà, c'est sûr que c'est pas celui qui est le plus fringant et le plus distingué, on dira, quand il va à l'approche de son adversaire. Mais en tout cas, ça peut en effet être un joueur qui va pas hésiter à aller au boulot quand il faut le faire.
Après, voilà, j'ai quand même lu qu'il était bon plaqueur, qu'il était intelligent dans le jeu. Un poil moins intelligent dehors du terrain, puisqu'il a pris une année de probation pour arrestation avec de la marijuana en 2016.
Il paraît.
C'est à noter. Donc, quel niveau pour Tevon Coney ?
On serait déjà quatrième. Allez, max cinquième tour quand même. Ça reste un prospect intéressant malgré tout.
Bon, donc là, on descend au troisième chapeau avec trois gars qu'on a croisés dans la rue, hein, visiblement. Le premier, c'est Bobby Okereke de Stanford, 1m90, 106 kg, 13 matchs, 96 plaquages, 7 plaquages et demi pour perdre, 3 sacs et demi. Hyper explosif, mais pas super plaqueur. Est-ce que c'est un bon résumé ?
Oui, t'as à peu près. T'as à peu près.
Je fais des bonnes recherches pour des mecs que je connais pas quand même.
Oui, non, t'as à peu près tout dit. Après, bon, alors c'est vrai qu'il a été beaucoup critiqué sur le plaquage. Il a un petit peu du mal à finir ses actions, ça c'est une réalité. Après, je sais pas. C'est vrai que généralement, des matchs que j'ai vus de Stanford, ça m'a pas non plus choqué. Alors c'est vrai qu'il y a des... On va dire que c'est un petit peu comme ce que j'évoquais tout à l'heure avec Devin White. Je pense qu'il gagnerait à être un peu plus discipliné. Un joueur comme Zach Cunningham, par exemple, le linebacker de Houston, avait ce petit défaut ces dernières années. Mais c'est un joueur qui a quand même une bonne activité, un bon sens de la poursuite. Je le vois peut-être pas hyper polyvalent non plus. Je pense qu'au mieux, ce sera peut-être un inside linebacker 34. Mais je le vois pas forcément dans un système 43, en tout cas à l'heure actuelle. Je peux me tromper, hein, mais je pense que ça correspondra beaucoup plus. Et oui, en effet, peut-être comme un Will, un linebacker côté faible, où il y aura un peu plus d'activité, mais sans trop de responsabilité non plus. Donc voilà, améliorer, on va dire, la technique de plaquage et la manière de vraiment finir les actions, être focalisé jusqu'au bout du sifflet, comme ils aiment dire aux États-Unis. Mais ça reste quand même un prospect assez, assez intéressant sur le papier.
Quel niveau ?
Je dirais 4e, 5e tour aussi.
D'accord, lui, c'est presque...
Un temps, il était dans mon deuxième chapeau, mais voilà, je mettrais quand même Tevin Coney un poil devant, parce qu'en effet, il y a quand même cette discipline que je préfère du côté de Coney.
C'est presque quand même une potentielle bonne affaire, en fait, au Kérékè.
Ça peut, sur une équipe qui a des besoins, ou en tout cas qui cherche à mettre un peu de concurrence sur certains inside linebackers de l'équipe, oui, ça peut être un joueur qui peut se révéler être une bonne surprise, un peu comme Kenny Young, par exemple, l'année dernière à Baltimore.
David Long, West Virginia, 1m80, 100 kg, 12 matchs, 111 plaquages, 19 plaquages pour perte et 7 sacs. Il lit bien le jeu, il attaque bien les lignes de scrimmage, en gros, il est bon contre la course, et un peu moins en couverture.
Ouais, alors c'est un joueur assez particulier, David Long, dans le sens où c'est un joueur qui est quand même assez... Paradoxalement, il est quand même assez athlétique. Il sait faire pas mal de choses. Après, c'est sûr qu'en effet, il a tendance, je trouve, à parfois un peu trop en faire. Il a ce côté vraiment polyvalent, mais ce côté... brasser de l'air, c'est peut-être un peu méchant, mais en tout cas... Après, c'est vrai qu'il n'est pas non plus aidé par le fait qu'il joue dans la conférence Big 12, où forcément, il est peut-être plus exposé par le jeu aérien, par des quarterbacks qui vont lancer à outrance. Mais je trouve quand même que c'est un prospect assez intriguant, dans le sens où il a également, je trouve, cette capacité à blitzer. Il est quand même assez précieux sur la poursuite. Et puis voilà, après c'est sûr que sur la couverture ça va poser quelques soucis. Je sais plus combien il fait en termes de taille, je sais pas si tu l'as dit.
J'ai dit 1m80, oui, c'est un peu 80, petit. Ouais. Officiellement 1m80.
C'est un peu petit aussi, donc c'est sûr que là encore ça va pas l'aider sur certains match-up. Là encore on peut être sur de l'inside linebacker 34, mais
oui, c'est des rôles limités pour l'instant. Je te sens même pas.
Oui, mais en troisième chapeau. Oui, non, c'est pas. Mais c'est des joueurs. Encore une fois, je le répète, j'ai tendance à être assez redondant là-dessus, mais voilà, c'est des joueurs qui peuvent énormément donner sur équipe spéciale. Et on sait que malgré tout, c'est même s'il y a eu quelques reconsidérations avec les coups de pied reculés, etc., etc. Mais c'est des joueurs qui, encore une fois, peuvent être hyper performants dans ce rôle-là, parce que c'est des joueurs qui ont les qualités athlétiques. Et qui malgré tout ont quand même une certaine discipline. David Long, ça a été un leader, un capitaine incontesté du côté de la défense de West Virginia. Donc globalement, les responsabilités, il ne fuira pas devant. Après, voilà, il y a forcément des lacunes dans son jeu et on aura du mal à occulter quand même. On ira sa certaine irrégularité sur le run stop et encore une fois ses difficultés criantes en termes de couverture.
Le niveau auquel il va être sélectionné, il peut être sélectionné.
Ah oui, wow.
Non, le niveau auquel il peut être sélectionné. Ah pardon, je pensais que tu articulais ma phrase.
Quatrième, ouais, allez, cinquième tour. Oh, Max,
je me doute bien que tu vas pas me proposer des mecs qui vont aller en AF dans 3 ans. Quoi.
Ça existera encore.
Prochain joueur de XFL. Jalani Tavai de Hawaï, 1m90, 133 kg, 8 matchs, 82 plaquages. Ça fait quand même plus de 10 plaquages par match. 5,5 plaquages pour perte et 2 sacs. Gros cogneur, intelligent, joueur un peu à l'ancienne.
Oui, alors là, pour le coup, on revient dans ce profil de...
133 kilos pour 1m90, waouh.
On peut revenir dans le côté middle linebacker 43, pur et dur, quoi. Et d'ailleurs, c'est un joueur... Alors, il a été blessé, alors je ne sais plus... il me semble qu'il a été blessé à l'épaule.
Oui, il a joué que le match. Ouais.
Il a été blessé à l'épaule au cours de la dernière année, donc voilà. Il met de l'engagement, quand il y va pas pour rien. Mais non, en tout cas, voilà, c'est un joueur qui a été l'âme de cette défense d'Hawaï, qui en effet... va pas avoir de mal à répéter les efforts, on dira, du côté du run stop, et qui a été assez performant. Encore une fois, ses stats en ont un peu pâti lors de la dernière saison, parce que en effet, il y a eu quelques soucis de santé. Après, bon, ça reste aussi les défenses d'Hawaï, ça a forcément été très tributaire du niveau de l'attaque, hein, où forcément c'est de l'attaque hyper explosive, où forcément la défense passe beaucoup de temps sur le terrain. Ça n'a pas forcément joué pour lui, mais en tout cas, il y a également un profil qui est assez complet, assez polyvalent, mais qui reste avant tout tourné sur, on va dire, le jeu au sol pur et dur, et la capacité à vraiment maîtriser, surveiller de manière permanente le running back adverse.
Ça me fait penser à Hawaii. C'est vrai que c'était des attaques explosives. Comment il s'appelait ? C'était Colt Brennan, non ? Qui pétait tous les records il y a quelques années.
Exactement.
Et ça marche toujours bien pour eux ou...
Ils ont repris un petit peu cette habitude. La saison dernière, notamment, c'était plus forcément si flagrant précédemment. Mais là, en tout cas, en 2018, ça s'est ressenti un petit peu. Donc, je ne sais pas s'il y a un rapport de cause à effet avec les blessures de Jalani Tavai. Mais en tout cas, c'est sûr que ça n'a peut-être pas forcément aidé.
À quel niveau pour Jalani Tavai ?
Cinquième, sixième tour.
Honnêtement,
je dis, sur cette draft-là, je serais étonné qu'il y ait plus de 10 linebackers draftés à l'issue des 7 tours.
Petite cuvée donc pour les linebackers. Bon, et bah jingle et ensuite très grosse cuvée.
Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Donc pour parler ligne défensive, et là c'est le gros morceau, on vous l'a promis, ça va. Alors on va reparler de pas mal de joueurs dont on a parlé dans le top 15 de la draft, qui était notre première émission de présentation de la draft, Grégory, parce que c'est là qu'il y a des stars, il y a de la star au mètre carré, on va commencer par ça. Les stars donc, Nick Bosa tout d'abord, il était numéro 2 de ton big board, defensive end d'Ohio State, il n'a joué que 3 matchs l'an dernier mais il a réussi 4 sacs, 1m93, 119 kilos, c'est le frère de Joey Bosa, le joueur des Chargers. Mmh. C'est donc un pur pass rusher en position defensive end.
Oui.
Ou il peut sortir linebacker sur une 3-4.
Il est quand même assez costaud. Il est quand même assez tanké. C'est vrai qu'on se posait un petit peu les mêmes questions avec Joey à l'époque où il avait été drafté. C'est sûr que je le vois quand même un petit peu plus en defensive end 43. Après, bon, c'est un joueur qui... Il a quand même un premier pas qui est assez dévastateur. Donc, pour jouer un inside linebacker, avec la pointe de vitesse qu'il a, le premier pas assez explosif, et en même temps la panoplie de moves, c'est un des meilleurs joueurs dans ce domaine-là. Je suis même pas sûr qu'en outside linebacker 34, il ferait tâche. Après, si tu charges vraiment son plein potentiel à l'échelon supérieur, c'est sûr que ce ne serait pas forcément une mauvaise idée de le mettre dans un front fort dans un premier temps.
Où est-ce qu'il va aller, du coup ? C'est un peu... On a parlé de ses qualités. Encore une fois, je vous réfère à l'émission du top 15 pour entendre plus sur ses qualités, et qui sont énormes. Mais là, maintenant, la question qu'on peut se poser pour éviter de répéter la même chose, où est-ce que tu le verrais le mieux parmi les équipes qui ont les premiers choix ? Cardinals, 49ers, Jets, Raiders, Buccaneers. On peut s'accorder sur le fait que ça va être un top 5.
Oui.
Assez facilement.
Un top 3. Même.
Voilà.
Si tu pars du principe que les deux quarterbacks, on va rusher pour, mais
voilà.
J'aurais du mal à pas avoir top 3.
Donc, les 49ers, ça revient souvent. Est-ce que tu le vois bien s'intégrer là-bas, par exemple ? J'ai un doute sur leur système défensif. Il y a eu un changement, non ?
Oui, c'est un petit peu flou. Ils étaient sur un 43 ces derniers mois. C'est possible qu'ils passent sur un système hybride avec de temps en temps une utilisation en 34. Après, encore une fois, je pense que ça dépendra également de la direction dans laquelle ils vont lors de cette draft.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Avec Nick Bossa, je pense qu'ils auront quand même de quoi bien alimenter leur ligne défensive et du coup quand même rester un petit peu plus sur un front de fort.
Alors, comme ils avaient drafté énormément de defensive ends ces dernières années aussi.
De la même défensive tout court, voilà, parce
les
que
Buckner, les Thomas,
Buckner, Armstead, Thomas, etc. Et ça
donc est-ce qu'ils retentent encore un lineman défensif?
De toute façon, ils ont des besoins sur le pass rush.
Oui, c'est vrai.
Ils ont laissé partir Cassius Marsh en plus. On se rend compte que Solomon Thomas, c'est peut-être pas forcément sa meilleure place sur l'extérieur de la ligne.
Enfin, ils ont signé Dee Ford aussi.
Mais qui pour jouer en face de lui? Il doit rester, j'ai plus son prénom en tête, mais Blair. Donc quand même, je pense que s'ils veulent rajouter un petit peu d'envergure, on dira, sur le pass rush, qui a quand même été assez irrégulier la saison dernière, je pense que ce serait pas une mauvaise idée. Après, Jets et Raiders, ça peut coller aussi. Il y a des besoins également dans ce domaine-là. Donc,
En un mot, est-ce qu'il est meilleur que son frère? Je l'ai déjà demandé la dernière fois.
Ouais. Joey m'avait quand même plus impressionné lors de son passage à Ohio State. Après, ce que ça donnera en NFL, je peux présager de rien, mais... On dira que Joey avait beaucoup de le niveau global de la défense de Ohio State était meilleur que celui des Buckeyes actuellement.
Ouais.
Donc on avait plus d'incertitudes, mais moi je pense que Joey me paraissait un peu plus solide.
Josh Allen, il était quatrième dans le top 15 de la draft, linebacker de Kentucky, 1m80, alors linebacker, pass rusher, j'ai mis linebacker, mais il est plus pass rusher, 1m96, 118 kilos, 13 matchs, 88 plaquages, 21,5 au niveau des plaquages pour perdre, 17 sacs, 4 passes déviées, 5 fumbles forcés, 1 bloc. Lui, on est plus pour le coup justement pass rusher, outside linebacker en 3-4.
Ah bah carrément, moi quand on en avait parlé la dernière fois, je t'avais dit que pour moi c'était vraiment... Un côté Von Miller dans l'utilisation, linebacker ou 43 ou 34, parce que c'est un joueur qui, sur le run-stop, sur la prise d'espace, va être excellent. Il est capable de prendre le coin et d'être efficace sur le pass rush, mais je l'ai trouvé peut-être un peu plus irrégulier, notamment sur des duels physiques. Et s'il tombe sur des bons tackles côté aveugle, des tackles très techniques et très imposants, je me fais un peu plus de soucis pour lui. Donc, c'est sûr que par rapport à Bossa, c'est un joueur qui serait beaucoup plus excentré, on dira, en termes de pass rush. Mais c'est un joueur, encore une fois, très polyvalent. Là, je le mets un peu plus sur la ligne défensive parce que c'est sûr que c'est ce qui revient un petit peu plus. Et on l'annonce beaucoup chez les Jets ou chez les Raiders, donc a priori en tant qu'edge rusher. Mais c'est un joueur qui pourra faire beaucoup de choses, je pense, à l'échelon supérieur.
Ouais, chez les Jets, ce serait pas mal pour compléter un peu cette défense.
Surtout que j'avais pris cet exemple-là, mais il ressemblait beaucoup à Anthony Barr, qui a failli être signé par New York. Donc, si les Jets sont un petit peu frustrés de ne pas avoir récupéré le linebacker de Minnesota, ils auront peut-être dans l'envie de prendre un espèce de binôme, un espèce de clone.
Chez les Jets, ce serait le troisième choix. Ça les vaudrait, troisième?
Troisième, ça peut, je pense que ce sera un top 5 au pire des cas. Moi, de toute façon, hormis les deux quarterbacks, il y a vraiment trois joueurs qui me paraissent assez indéboulonnables. Nick Bossa, dont on a parlé, Josh Allen et le joueur dont on parlera tout de suite après.
Et bien le troisième, Quinnen Williams, qui était carrément numéro 1 de ton top 15. Defensive tackle d'Alabama, 15 matchs, 71 plaquages, 19,5 au niveau des plaquages pour perte, 8 sacs, une passe déviée, il fait 1m93 pour 134 kilos. Est-ce que c'est Aaron Donald avec 10 kilos en plus? Je crois que je t'avais déjà posé la question là. J'ai copié mes notes, j'avoue. J'ai repris les mêmes joueurs.
Non, mais en tout cas, voilà, c'est un joueur qui a vraiment très très peu de défauts. Peut-être la réactivité, mais enfin, c'est même pas forcément ce qui me sauterait aux yeux, très franchement. On n'arrive pas à juger de sa réactivité parce que 9 fois sur 10, quand il tente quelque chose, ça marche. Donc c'est sûr que, oui, s'il tombe contre des joueurs NFL qui sont beaucoup plus aguerris que ce qu'il a rencontré jusque-là, comment il s'adaptera, ça restera à voir. Maintenant, c'est un phénomène physique. C'est un joueur qui a fait qu'une seule année à Alabama, qui était seulement sophomore, mais qui a été à un tel niveau de performance que ça, il n'y avait aucun intérêt à rester une année de plus en college football, à part éventuellement à part académiquement, j'entends, et perdre de la cote en vue de la saison prochaine. Mais c'est un joueur qui, encore une fois, est dans cette mouvance, on dira, des linemen défensifs intérieurs, experts du pass rush, des joueurs qui, grâce aux mains violentes et à leur incroyable puissance, sont capables vraiment de pénétrer efficacement dans la poche et de mettre constamment sous pression le quarterback adverse. et dans une ligue qui passe beaucoup. C'est hyper important d'avoir ce genre de joueur capable non seulement de mettre la pression, mais au pire des cas, être capable d'ouvrir des énormes brèches pour les joueurs autour. Et c'est en ça que Quinnen Williams est un joueur éminemment apprécié par les scouts.
Et alors, si les Cardinals disent « on aime bien Josh Rosen, on prend Quinnen Williams en 1 », ça te va ?
Ah bah oui, carrément. Il y a des besoins à ce poste-là en plus, donc oui.
On passe aux valeurs sûres et on en continue avec des joueurs, je crois que les 3 aussi, non, 2 sur 3. Deux de tes valeurs sûres étaient déjà dans le top 15 aussi. Le premier, c'est Christian Wilkins, il était 8e du top 15, défensif tackle de Clemson, 1m93, 143 kilos, 50 plaquages en 15 matchs, 15 plaquages pour perdre, 6 sacs, 2 passes déviées, un fumble forcé, 1 bloc et 2 touchdowns au sol. Il a l'expérience des gros matchs avec Clemson, il est champion, il a répondu présent dans les gros matchs. Pareil, on cherche les points faibles.
On cherche les points faibles, peut-être la répétition des efforts. C'est compliqué. Là, franchement, on est encore dans un joueur qui est hyper...
On sent que tu les aimes plus que les linebackers.
Hyper versé. Ah, tu trouves? Non, mais oui, c'est un joueur qui est hyper versatile, c'est un lineman défensif dont on se demande s'il peut jouer defensive tackle classique ou defensive end sur une 34, parce que, en effet, du côté de Clemson, il a eu cette faculté à jouer absolument partout avec globalement le même niveau. Il a quand même des bons moves, je trouve, sur le pass rush, à la fois puissant mais également athlétique. Une technique que je trouve très solide, avec notamment un bon centre de gravité, notamment pour prendre le dessus sur son adversaire. Et puis tu le disais, enfin, il a ce panel de jeu où il peut être également performant sur l'équipe spéciale, sur des positions goal line en attaque. Donc voilà, c'est un joueur, c'est un motivateur, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Et je l'ai répété assez souvent, mais voilà, pour moi, ça a été la pierre angulaire de la défense de Clemson, qui a été championne nationale cette saison, Donc voilà, moi, j'ai pas grand chose à lui reprocher, c'est un des joueurs que j'aime beaucoup défensivement dans cette classe, donc pour moi, faut y aller les yeux fermés.
Alors, quelle ligne il vient renforcer? Broncos en 10, Packers en 12?
Écoute, plus tout haut. Dépendra de ce qu'il a drafté, mais par exemple, si Tampa le récupère en 5 parce que les meilleurs joueurs sont partis avant, ça me choquerait pas.
Plus haut, d'accord.
Les Giants, on sait qu'il y a des besoins en quarterback, certes, mais s'ils prennent une autre direction, ils ont des besoins sur la ligne défensive, pardon, pour mettre en concurrence avec Olsen Pierre en defensive end, ça peut être une bonne possibilité.
Brian Burns, Florida, defensive end, 1m95, 98 kg, 12 matchs, 52 plaquages, 15 plaquages et demi pour perdre, 10 sacs, 3 passes déviées, 3 fumbles forcés, il lui restait une année possible à la fac. Gros athlète, quand on dit gros athlète en général, il y a dans quel domaine il doit progresser?
Et c'est un joueur qui a un gros problème, c'est son déficit de puissance. C'est un joueur, alors je sais plus, j'ai plus toutes les tailles, les poids, tout ça, enfin bref, mais c'est un joueur qui est quand même très longiligne.
Oui, 98 kg pour 1m95, c'est rare qu'il soit en dessous des 100 kg les defensive end.
Voilà, donc je pense qu'il va prendre quand même un petit peu de masse. Paradoxalement, je suis pas sûr qu'en tant que defensive end 43, il fasse forcément tâche en NFL, encore une fois, en prenant un petit peu plus de coffre. Après, il faudra forcément surveiller pour pas que sa vitesse et son explosivité en pâtissent. Parce que là encore, c'est un joueur qui est très très complet. S'il n'y avait pas ce gabarit un petit peu atypique, un petit peu particulier, considéré par beaucoup comme relativement frêle, il aurait quand même la capacité de faire énormément de choses. Là encore, on a une panoplie de moves qui est hyper variée. Un premier pas et une capacité à prendre le coin qui est vraiment une des meilleures de cette classe.
Alors juste pareil, petit éclaircissement, le fait dans une capacité à prendre le coin.
De contourner le tackle, pour faire simple, de réussir à passer par l'extérieur, on dira, pour pénétrer dans la poche. Mais c'est sûr que je parlais de Josh Allen tout à l'heure. Avec un gabarit un peu moins imposant, est-ce que lui aussi arrivera à se défaire de tackles très physiques et très techniques? C'est pas sûr et certain, mais en tout cas, il a démontré du côté de Florida State qu'il était capable de faire énormément de choses. Certains lui reprochent son run stop, je suis pas convaincu à 100% là-dessus. Donc non, c'est un joueur très complet qui devra prendre un petit peu plus de coffre, mais qui, très franchement, je pense sera un titulaire indiscutable en NFL. Sauf problème de blessure, ce que je ne souhaite pas.
Il était 9e de ton top 15, donc c'est un potentiel top 10.
Oui, très franchement. Enfin, c'est ce que j'évoquais un peu dans la mock draft spécial trade il y a quelques jours. Je pense quand même qu'au niveau des pass rushers, ça va rusher sans mauvais jeu de mots, parce qu'il y a quand même des besoins. Ça reste pratiquement les quarterbacks de la défense ces dernières années.
Tu le verrais où alors du coup? Tiens, parce que comme on a déjà parlé, on essaie de retrouver des équipes.
Bah écoute, t'as l'embarras du choix. Hein,
Jaguars, Lions, Bills, Broncos, je te fais jusqu'à 10 là.
Ouais, on va dire Bills.
Allez.
Bills. Même les Buccaneers qui ont des besoins, même les Raiders s'il leur plaît. Je crois que je les avais mis 4 je crois, justement dans le mock à Oakland. Donc non, ça peut coïncider, ça peut coller.
On termine les... c'est quoi? C'est les valeurs sûres, pardon, oui. J'étais en train de chercher. Montez Sweat, Mississippi State, 1m98, 114 kg, 13 matchs, 53 plaquages, 14 plaquages pour perte et 11 sacs et demi. Defensive end en 4-3, est-ce qu'on... Alors voilà, je te vois hocher la tête, j'allais dire, est-ce qu'on est vraiment sur un joueur qui doit partir de la ligne et pas être transformé en linebacker 3-4?
Franchement, on a l'embarras du choix. C'est un joueur qui peut faire énormément de choses. À Mississippi State, je l'avais dit, il a vu beaucoup de choses. Il a commencé en outside linebacker pour finir en defensive end et il a été bon sur les deux postes. Il a cette faculté également à être bon sur le run stop, donc en tant qu'outside linebacker, il fera pas forcément tâche. Et puis il a vraiment ce physique hyper atypique, grand, physique, ouais, voilà,
deux mètres,
c'est...
Ouais.
Enfin, c'est vraiment un profil, pour reprendre une comparaison, alors je sais pas si c'est exactement judicieux, mais ça, c'est presque aussi bluffant ce qu'on a vu de sa part qu'un Julius Peppers qui était outside linebacker à Green Bay, malgré son physique de déménageur. Donc ça peut être un joueur de cette trempe-là. On sait qu'il y a eu une petite alerte, notamment médicale, pré-draft, où du coup on ne sait pas trop...
C'était lui qui avait un souffle au cœur léger.
Je sais plus exactement, mais je crois que c'est lui qui avait eu ça, ouais. Parce que je sais qu'il y a eu différentes petites alertes pour certains prospects, mais je pense que c'est lui qui était concerné. Mais bon, ça a été relativement rassurant des derniers échos que j'ai eus. Maintenant, très franchement,
C'était lui, oui, en effet, hein, le petit souffle au cœur. Mais après, oui, il n'y avait rien d'alarmant, a priori.
Non, voilà, c'est ça. Ça n'a pas fait chuter sa cote de manière significative. Et là encore, on a quand même un joueur qui est potentiel top 15, voire top 10 de par l'ébouriffant combine qu'il a proposé. Ce ne serait pas étonnant.
Après, on sait qu'il peut y avoir des magouilles pré-draft, du genre on fait sortir une petite info pour faire flipper un peu les équipes du haut parce qu'on veut le récupérer plus bas.
Ouais, peut-être.
Des petits arrangements même avec l'équipe. Tu vois, avec l'agent, il dit que t'as la lèpre, dit que t'as la lèpre en interview. Puis comme ça, hop, ça fait tomber. Et puis l'équipe des Patriots récupère le mec en 32e place.
Pourquoi pas. Et en tout cas, prospect très intéressant. Et encore une fois, contrairement à d'autres prospects que j'ai évoqués et d'autres defensive, enfin, et d'autres pass rushers en règle générale, là, c'est un joueur qu'on peut mettre à peu près partout.
Et donc, Montez Sweat, quel niveau tu le vois partir?
Top 15, voire top 10.
Top 15, voire top 10. Donc, on est toujours sur les mêmes équipes, à peu près, qu'on a évoquées tout à l'heure. Les busts, je sais que c'est ta catégorie préférée. On va commencer par Rashan Gary de Michigan. Defensive line, donc 1m96, 128 kg, 9 matchs, 44 plaquages, 7 plaquages et demi pour perte et 3 sacs et demi. Il court en 4 secondes 58 sur 40 yards. C'est un lineman qui peut courir très vite. Il est terrifiant. Tu l'avais mis 5e de ton top 15. Pourquoi donc ce serait un bust finalement?
Pour pas mal de choses, déjà d'un point de vue production, c'est un joueur qui a quand même beaucoup déçu à Michigan. J'en parlais, recrue phare star tout court du recrutement de Michigan quand il arrivait sur le campus d'Ann Arbor. Et c'est un joueur qui, même s'il a été utilisé, on va dire, un coup en defensive end, 43, un coup en defensive end, 34, a jamais vraiment été hyper bluffant, on dira, a pas été la... Voilà, c'était un joueur qui était dissuasif, on dira, sur le jeu au sol, mais qui a pas forcément apporté toutes les garanties qu'on pouvait en attendre sur le pass rush, en tout cas à mon sens. Et ça rejoint une autre situation, quel est son poste préférentiel en NFL? Voilà, moi je le vois comme un defensive end 34. Il y a la rumeur qui court comme quoi certaines équipes, de par justement sa pointe de vitesse assez importante au combine, le verraient peut-être plus comme un defensive end 43. J'ai du mal à être emballé par cette idée parce que je pense qu'en termes de répétition d'effort, encore une fois, je suis pas sûr qu'il donne son plein potentiel. Il me rappelle un peu sur cet ordre d'idée là malgré son immense talent à Jadeveon Clowney. Et on voit que Clowney, malgré son immense talent,
oui,
il a jamais supplanté un JJ Watt à Houston ou ce genre de choses. Donc c'est un peu ce qui m'inquiète pour Rashan Gary. Maintenant, ça reste un très bon joueur et s'il est bien encadré, motivé comme il faut, on peut peut-être en tirer de bonnes choses. Mais je pense que ce sera quand même sous condition de lui trouver un le vrai poste préférentiel qui lui convient le mieux, et encore une fois de le focaliser sur toute la durée d'un match.
Et pourtant tu l'as mis donc 5ème de ton top 15, ça veut dire qu'il va partir très haut.
Oui, je pense que ce sera un top 15 grand max.
Jerry Tillery, défensif tackle qui vient de Notre-Dame, 2m01, très très grand, 138 kg, 13 matchs, 30 plaquages, 10 plaquages et demi pour perte, 8 sacs. Est-ce que c'est une question de tempérament? Parce que sur les qualités physiques et techniques, je lis beaucoup beaucoup de bonnes choses sur lui. Par contre, il a l'air un tout petit peu compliqué à gérer. Il a frappé un joueur de USC à la tête en 2016. Il a piqué une grosse colère sur Twitter. Il a fait des matchs où, visiblement, il ne donnait pas ce qu'il avait à fond. Il aurait corrigé ça l'an dernier, mais voilà, il y avait des drapeaux rouges, comme on dit. Donc, est-ce que c'est dans le jeu ou est-ce que c'est le comportement qui t'inquiète?
Alors, c'est sûr que d'un point de vue comportement, ce n'est pas ce qui me rassure le plus. C'est en effet, là, très clairement, pour anticiper ta question habituelle, je pense que ça le discrédite d'être un premier tour sur cette QV. Il aurait eu la possibilité, mais d'une part, le niveau de la ligne défensive globale, plus en effet ses comportements hors terrain, et même sur le terrain en l'occurrence, ça l'amènera sans doute à être drafté au mieux le vendredi, donc le deuxième jour de la draft. Après, d'un point de vue technique, même s'il sort de Notre-Dame, même s'il y a de bonnes choses, je le trouve encore un peu perfectible, et encore une fois, dans une QV qui pousse quand même à une certaine exigence, c'est vrai que ça me pose un peu question. Après, voilà, il y a la question en effet de la discipline qui revient. C'est un joueur qui peut sortir un peu de son match et provoquer quelques pénalités. Je prenais l'exemple de Vontez Burfict tout à l'heure, mais là on peut être à peu près dans ce profil de joueur qui...
D'accord.
Qui va peut-être se laisser un petit peu trop aller sur certains blocs et qui peut parfois coûter cher à son équipe avec des premières tentatives automatiques offertes gracieusement. Donc voilà, c'est un joueur qui a vraiment mis du temps, je trouve, à exploser du côté de Notre-Dame, malgré l'immense talent qu'on lui connaissait. Et j'ai un peu peur qu'à l'échelon supérieur, il ne soit pas encore totalement prêt, totalement mature pour vraiment performer efficacement.
Quel niveau, du coup, tu le vois sélectionné?
Ce qui aurait quand même deuxième tour.
Deuxième tour. Ouais. Cléline Ferrell dans les busts, enfin. Defensive end de Clemson, lui aussi était dans le top 15. Il était 13e, 1m93, 120 kg. 19 plaquages et demi pour perte en 15 matchs l'an dernier. 11 sacs et demi, 4 passes déviées, 3 fumbles forcés. Alors c'est comme Wilkins, il vient de Clemson, il est champion, il a fait des gros matchs, il est titulaire depuis un moment. Et pourtant, alors, bust.
Ça c'est dur par contre.
Bah ouais,
ça, j'avoue.
J'étais étonné de voir un joueur de Clemson dans les busts.
Bah, étonné, non, mais après, c'est un joueur qui est efficace sur le pass rush, c'est un joueur qui, techniquement, est assez propre. Après, c'est vrai que j'ai du mal avec Clelin Ferrell. Je pense qu'il a été beaucoup tributaire du travail de la ligne défensive, de Christian Wilkins, de Dexter Lawrence, notamment, pour lui permettre d'obtenir des brèches. Après, ce sera pas l'analyse la plus poussée de ce podcast. C'est sûr que...
Il était 13ème de ton top 15.
Il était 13ème, mais, ce sera encore une fois, je le répète, c'est un joueur qui a du bagage quand même, notamment techniquement, ce qui n'est pas le cas de tous les defensive end non plus, et il y aura en effet une course au pass rusher lors de cette draft, donc je pense que ce sera quand même malgré tout un top 15 grand max. Maintenant, est-ce qu'il aura le rendement d'un premier tour? J'en suis pas persuadé, donc je vais pas reprendre bêtement le concept de dire, bah vous voyez, Chuck Lawson a été drafté à peu près dans les mêmes eaux et a pas donné satisfaction à Clemson. Regardez, Vic Beasley du côté de Clemson, c'était bien, et puis en NFL, c'est beaucoup plus irrégulier.
C'est vrai qu'il y a pas mal de déchets sur les lignes défensives de Clemson.
C'est
qui
pas
sort.
Toujours voué à être la même chose, mais en tout cas, c'est sûr que ça me rassure pas totalement compte tenu des énormes joueurs qu'il avait autour de lui, Christian Wilkins notamment.
On termine avec une note plus positive et les bonnes affaires. Et le premier, c'est Jeffrey Simmons, Mississippi State, 1m93, 137 kg, 13 matchs, 63 plaquages, 17 plaquages pour perte et 2 sacs. Il me plaisait beaucoup, ce joueur. Je l'avais mis dans je ne sais plus quel war room, je sais plus quelle équipe que je faisais.
Miami, je crois.
Ouais, et il s'est blessé entre-temps. Ça va être le souci. Blessure sérieuse en plus, hein, si je ne dis pas de bêtises.
Bah, déchirant des ligaments croisés.
Oui, voilà, c'était ça. Oui, donc, il s'était fait les croisés. On va aussi évacuer le fait que... Il a agressé une femme en 2016.
Oui. Évacuons le fait que ce soit un sale type.
Voilà. donc
pas très fréquentable en tout cas. C'est un peu la même situation malgré tout que ce qu'on a pu voir avec Joe Mixon il y a quelques années, même si l'histoire avec Mixon avait été beaucoup plus relayé, notamment de par la vidéo qu'on avait vue.
Alors après, Mixon, donc talent, etc., et agression, mais les croisés en plus. Donc là, c'est bonne affaire au sens où on fait un pari, il joue pas pendant un an, quoi.
C'est un peu ça. En tout cas, a priori, oui, il y a de très fortes chances pour qu'il ne joue pas en 2018, après la 2019. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que ça vaut le coup de le mettre de côté une saison. On a vu qu'avec Jalen Smith, par exemple, à Dallas,
ah oui, ça
alors
a marché,
que
ouais.
Voilà, on pouvait avoir quelques doutes. Dallas a été patient et puis au final, s'en est quand même frotté les mains parce qu'à l'heure actuelle, c'est un titulaire indiscutable de cette équipe des Cowboys. Après non, je pense que le pari vaut le coup d'être tenté. Est-ce que ça vaut le coup d'être un premier tour pour un joueur qui est quand même hyper explosif? Là, pour le coup, on est vraiment dans cette, on revient en tout cas dans cette catégorie de lineman défensif qui peut absolument tout faire et qui peut notamment être hyper habile sur la pénétration et le pass rush. Sans sa blessure, ça aurait été un top 10 selon moi.
Puis tu dis habile, mais costaud, hein. 1,93
pour
137
kilos. Ah oui, non, mais c'est un tank. Oh. Et puis alors c'est pareil, pour le coup, je parlais de Montez Sweat qui a été performant. Ça vaut aussi pour Jeffrey Simmons, qui a été vu en tant que defensive tackle 43, qui a été un peu plus vu dans un profil FAF technique, donc en tant que defensive end 34. Il a été performant surtout en étant capable de créer la pression lui, mais de permettre aux autres de créer de la pression également. Donc voilà, comme Sweat, c'est un joueur qui sait faire énormément de choses et ce sera sûrement un joueur avec qui on pourra se frotter les mains, en espérant bien entendu que sa blessure ne soit pas plus grave que prévu.
Et du coup, avec la blessure, plus un peu de hors-terrain, plus tout ça, il va tomber où ? Il peut tomber très bas, non ? Ou...
Moi, je le vois quand même fin premier tour, parce que c'est un...
Ah, quand même ?
C'est un talent qui est trop énorme, je pense. Jalen Smith, j'en parlais tout à l'heure, il avait quand même l'inconvénient d'être linebacker. Donc, un poste un peu moins sexy, on dira, sur le papier. Là, c'est un genre de ligne défensive avec une énorme activité, une capacité à rusher le quarterback. Je serais quand même étonné qu'il n'y ait pas une équipe. En plus, fin de premier tour, c'est quand même des équipes qui globalement sont assez complètes.
Bah, si les Patriots mettent la main dessus.
Les Patriots, je pense aux Chargers par exemple, qui sont très complets également. Ça peut être une équipe qui peut se dire bon, bah, pendant un an, il ne sera pas là, mais en tout cas, quand il va arriver, une fois que tout sera bien en place, qu'il y aura une certaine ossature, bah, là, on va pouvoir faire mal.
Alors, pour le délire, hein, je regarde en bas, en remontant 32, un peu plus haut, donc 32 Patriots, 31 Rams, 30 Packers. Via Saints.
Packers, ça peut aussi. Hein.
Packers, ouais. Chiefs, 129. Il y a des besoins en défense. Hein.
Ouais, alors après, j'aurais plus des besoins sur le poste de defensive end 43, ce qui n'est pas forcément dans la... Mais pourquoi pas, hein, encore une fois, ça peut être un choix, un problème de riche.
Et après, Chargers, Raiders, Colts, Eagles. Là, je suis remonté jusqu'à 25.
Ouais. Raiders, pourquoi pas, s'ils ont besoin... Je trouve qu'ils ont suffisamment de quoi faire en defensive tackle, mais manifestement, certains fans des Raiders ne sont pas d'accord avec moi.
On n'en a jamais assez sur les lignes défensives.
C'est sûr.
Greg Gaines, pour terminer, Washington, defensive tackle, 1m88, 143 kg, 55 plaquages en 14 matchs, 6 plaquages et demi pour perdre, 3 sacs et demi, 1 interception. C'est un mec qui peut occuper de la place au milieu d'une ligue en 4-3, a priori, mais pas forcément aller chercher le quarterback. Moi, ce que je disais, c'est vraiment deuxième defensive tackle costaud, quoi.
Ouais, c'est ça. Alors je sais que c'est une, je le répète depuis tout à l'heure, mais donc du coup je sais que c'est un petit peu la lubie, on dira, de certains observateurs de vouloir absolument que tous les linemen défensifs intérieurs soient des bêtes sur le pass rush. Greg Gaines, c'est pas forcément son cas, c'est pas sa faculté première, mais j'ai presque envie de dire peu importe parce que il a une telle activité sur le run stop et il a cette capacité justement en tant que defensive end 34 à libérer des espaces pour ses coéquipiers, qu'à la limite qu'ils finissent pas à 10 sacs dans la saison, c'est même pas un problème. Et puis c'est un joueur qui non seulement a cette puissance, techniquement il est assez correct, et il a surtout une capacité de poursuite assez étonnante. Je me rappelle d'un match notamment contre Auburn en début de saison où il avait été assez bluffant dans ce registre-là. Donc c'est un joueur assez complet qui, d'emblée on va dire, de par la classe assez relevée, sera peut-être un 4e, 5e tour, et qui, je pense, sur en effet un front 34, peut devenir un titulaire assez rapidement dans une équipe NFL. Donc
ouais,
j'en fais une bonne affaire à 200%.
Bah, 4-5e tour et qui devient titulaire, c'est une bonne affaire.
Ah oui, non, mais clairement. Donc je m'arrêterai pas uniquement au pass rush en l'occurrence.
On termine avec Malik Carney, edge rusher de North Carolina, 1m90, 111 kg, 60 plaquages en 8 matchs et 6 sacs et demi. Il est très loin dans les prédictions.
C'est
très,
une bonne
très
affaire.
Loin, voilà. À quel niveau de la draft ce sera un style du coup pour toi ? C'est un mec qui va être sélectionné genre 7e, 6e tour ou
Ouais, je pense que ce sera 6-7 en effet. Alors lui, il y a quand même une grosse problématique également, c'est la problématique de son poste préférentiel. Alors là, du coup, j'étais en train de regarder. Du coup, il a 251, ce qui est pas énorme non plus pour un defensive end 43. C'est pour ça qu'on en
251,
fait...
tu parles en livres. Hein.
En livres, oui. Pardon.
Alors, je traduis.
Ça fait un peu plus de 100 kilos.
111 kilos pour moi.
111 kilos, ouais. Oui, un peu plus. Il y a quand même 11 kilos sur la balance. Mais non. Donc, du coup, certains en font potentiellement un outside linebacker 34. Il a quand même beaucoup été desservi. Enfin, on va dire que les mauvaises saisons successives de North Carolina ont beaucoup joué contre lui. Après, je prends l'exemple, par exemple, d'un André Smith, linebacker, qui est actuellement chez les Panthers, qui a montré de bonnes choses. C'est des défenseurs aussi qui sont beaucoup tributaires du mauvais rendement de leur équipe. Et du côté des Tar Heels, ces dernières années, ça n'a pas été la joie. Mais en tout cas, ça a été un joueur qui était assez polyvalent, qui restait quand même relativement explosif. Il y a beaucoup de choses en effet qui restent assez perfectibles dans son jeu. On va dire que selon moi il est bon dans beaucoup de domaines sans être excellent dans un domaine en particulier. C'est beaucoup ce qui joue contre lui. Maintenant, honnêtement, c'est là encore un joueur qui peut faire pas mal de choses, qui en termes de prise d'espace est assez intéressant aussi. C'est pour ça, je pense aussi qu'il y en a beaucoup qui le voient comme un linebacker un petit peu dans le profil de Josh Allen. Mais non, je pense que 6e, 7e tour, ça peut être un joueur qui va gratter quelques matchs en tant que titulaire, je pense, dans un premier temps, et qui sera peut-être pas forcément, qui peut, on va dire, bousculer la hiérarchie dans une franchise.
Eh bien voilà pour les linemen défensifs et les linebackers, c'est comme ça que se termine ce podcast numéro 291. Merci de nous avoir suivis, on remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Évidemment, merci beaucoup Grégory pour toutes ces lumières. On se quitte avec les petits mots habituels, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, pardon, je vais trop vite aujourd'hui, @tdactu pour Twitter, @tdactu sur Facebook, @touchdownactu en entier, sur Instagram pour les comptes perso, sur Twitter c'est @cieloradiosa pour Grégory, @alainmatei pour moi-même. On se retrouve la semaine prochaine pour le numéro 292, on parlera des safety et des cornerbacks et peut-être un tout petit peu d'équipe spéciale aussi quand même, s'il y a des mecs intéressants, je sais pas, ce sera la surprise, restez branchés. On rappelle, n'hésitez pas à nous suivre donc sur Spotify, sur iTunes, sur Apple Podcast, sur Google Podcast hein, aussi. A priori, vous pouvez nous trouver maintenant en tapant Touchdown Actu. Donc, si vous avez un téléphone Android, n'hésitez pas à utiliser ça. N'hésitez pas à laisser des évaluations et des étoiles et des pouces partout. On est sur YouTube aussi. Tiens, d'ailleurs, je dis ça en pensant à pouces. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Très bonne semaine à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.
Smokestack spitting black soot into the sunny sky. The load on the road brings a tear to the Indian's eye. The elephant won't forget what it's like inside his cage. The ringmaster telecaster sings on an empty stage. Goddamn right, it's a beautiful day. Goddamn right, it's a beautiful day.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.